VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel. On est vendredi 13 mars 2020. Abdelrahman Dia à la présentation, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir choisit le premier ministre Abondougon Koulibaly comme son candidat à la présidentielle du mois d'octobre. Le président guinéen Alpha Condé fixe la date des législatives et du référendum au 22 mars. L'épidémie de coronavirus provoque l'annulation d'événements sportifs et culturels dans le monde. Les mesures de restriction pèsent sur le quotidien des populations.
Ça crée une sorte de psychose. Les gens disent même qu'il y a des gens qui vont aller en dépression, évidemment, puisqu'on se sent vraiment en prison.
L'armée américaine qualifie de succès ses frappes aériennes en Irak contre une milice pro-iranienne. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président guinéen Alpha Condé a fixé au 22 mars la tenue d'un référendum constitutionnel controversé couplé à des législatives initialement prévues le 1er mars. Le corps électoral est convoqué le dimanche 22 mars pour les scrutins législatifs et référendaires, indique un décret présidentiel lu sur les médias publics. La campagne électorale se déroulera jusqu'au 20 mars, a précisé son entourage, alors que le gouverneur de Conakry a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes après la confirmation d'un premier cas de coronavirus sur une ressortissante belge, membre de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Amadougon Koulibaly est le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a été désigné par son parti à l'issue d'une réunion du bureau politique du RHDP. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous devons gagner ces élections au premier tour, a déclaré le Premier ministre de 61 ans dans un communiqué ajoutant, je cite, « Cela fait 30 ans que j'apprends aux côtés du président Alassane Ouattara. Amadougon Koulibaly a été nommé sans vote par le bureau politique. Il a été le secrétaire général de la présidence de l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à sa nomination comme Premier ministre en 2017. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il est de Korogo dans le nord du pays et a été maire de cette ville de 2001 à 2018. La semaine dernière, le président Alassane Ouattara a annoncé ne pas briguer un troisième mandat. Si nous voulons que notre pays continue d'évoluer dans l'esprit de gouvernance de Ouattara, Gon est le mieux placé à lancer Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Ne prenons pas des engagements d'une heure dans une salle qui, par la suite, ne reflèteront pas la réalité sur le terrain. En revanche, réagit le ministre de l'Enseignement supérieur, Albert Mabitoekwis, qui avait évoqué sa propre candidature. Avant Amadougon Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est déclaré candidat à la présidentielle. Accusé de complot et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, il vit actuellement en France.
Et nous reviendrons plus en détail en partie magazine sur cette actualité en Côte d'Ivoire. Et on reste en Côte d'Ivoire où l'opposition menace de boycotter l'élection présidentielle si la commission électorale n'est pas réformée avant le scrutin. La commission électorale a été réformée en juillet 2019 sur injonction de la Cour africaine des droits de l'homme, mais l'opposition juge qu'elle reste inféodée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Au Nigeria, un tribunal d'Abuja a ordonné la libération de l'émir de Kano, une des plus grandes figures traditionnelles du Nigeria, détenue par les services de renseignement après avoir été détrônée cette semaine par les autorités et bannie. Mamadou Sanoussi est actuellement en détention à Aoué, dans l'état de Nassawara, où il a été emmené en hélicoptère. Son avocat avait demandé sa libération et sa liberté de mouvement partout dans le pays, à l'exception de l'état de Kano, d'où il a été banni par le gouverneur local après des mois de bras de fer politique. Un haut gradé ougandais qui voulait se présenter à la présidentielle de 2021 face au président sortant Yoweri Museveni a été arrêté ce vendredi. Le point avec Nathalie Barche.
Le général Henri Tumukunde, un ancien ministre, a été arrêté sous l'accusation de trahison. Mon bureau et ma résidence sont en état de siège, on m'arrête pour des accusations de trahison présumées, avait tweeté hier soir le général, qui avait annoncé sa candidature à la présidentielle le 3 mars. Le général Tumukunde avait combattu aux côtés du président Museveni dans la guérilla qui avait mené ce dernier au pouvoir en 1986. Il a déjà été arrêté pour trahison en 2005 après s'être s'être opposé à une tentative de modification de la Constitution et a passé 6 années dans une prison militaire avant d'être placé en résidence surveillée pour 2 ans. Les charges à son encontre ont été abandonnées en 2013. Il a alors mené une campagne pour la réélection de Museveni en 2016, dispersant les rassemblements de l'opposition. Après l'élection, il avait été nommé ministre de la Sécurité, poste qu'il a occupé jusqu'en 2018. La limite d'âge pour briguer la présidence a été supprimée dans une révision constitutionnelle, autorisant ainsi Yoweri Museveni à se présenter pour un 6e mandat en 2021.
En Afrique du Sud, la Cour suprême d'appel a rejeté le recours de l'ancien président Jacob Zuma qui tentait d'éviter un procès pour corruption dans une vieille affaire d'armement. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, est accusé d'avoir touché environ 216 000 euros de pots de vin de la société française Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. C'est en Égypte, de fortes pluies et des inondations ont fait 7 morts selon des journaux gouvernementaux et un responsable de la sécurité. D'après ce responsable, 5 personnes ont péri dans le district de Zareyeb au sud du Caire lorsque des pluies violentes ont emporté leur maison. Les secours cherchent d'autres corps selon ce responsable.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump vient de déclarer l'état d'urgence. Il s'exprime à l'instant même au cours d'une conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus. Le coronavirus qui a provoqué un bouleversement total dans le quotidien des habitants dans plusieurs pays du monde. Le point avec John Lindon.
Je participerai à une conférence de presse aujourd'hui à la Maison Blanche. Le sujet, le coronavirus, a tweeté le président américain. Accusé d'avoir dans un premier temps sous-estimé la gravité de cette crise sanitaire mondiale, le locataire de la Maison Blanche n'a pas exclu ces derniers jours de déclarer l'état d'urgence. Cette initiative, qui serait un signal fort, permettrait à l'État fédéral de mobiliser des ressources plus importantes pour faire face à cette pandémie. Ailleurs dans le monde, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce vendredi que l'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie du nouveau coronavirus, appelant les pays à détecter, isoler, tester et traiter chaque cas. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a annoncé vendredi sur son compte Facebook ne pas être porteur du coronavirus. Monsieur Bolsonaro avait été testé au retour d'une visite aux États-Unis où il a rencontré la semaine dernière son homologue américain Donald Trump. Le gouvernement britannique a lui décidé aujourd'hui de reporter d'un an les élections locales qui devaient se tenir dans une partie des municipalités du pays. Quant à Emmanuel Macron, il a proposé à l'Union européenne de mettre en place dans les prochains jours des mesures de contrôle renforcées des frontières autour de l'espace Schengen.
Et nous reviendrons sur cette épidémie de coronavirus en partie magazine. L'armée américaine qualifie de succès ses frappes aériennes en Irak contre une milice pro-iranienne. Le Pentagone dit maintenir désormais 2 porte-avions dans la région pour répondre à la menace posée par l'Iran qui reste très élevée. Bagasekoura.
Nous considérons que c'est un succès sur tous les sites et nous sommes très satisfaits du niveau de dommages que nous avons pu infliger. Déclaration du chef du commandement central de l'armée américaine qui couvre notamment le Moyen-Orient et l'Asie centrale. L'armée américaine a frappé 5 positions proches de Bagdad des brigades du Hezbollah, une milice pro-iranienne dont certains éléments sont intégrés à l'armée irakienne à titre de représailles après la mort de 2 militaires américains dans une attaque à la roquette sur une base de la coalition internationale en Irak. Les frappes ont été menées par des avions de combat et non des drones équipés d'armements précisément calibrés pour infliger un minimum de dommages collatéraux, a précisé le général Mackenzie au cours d'un point de presse au Pentagone. Selon un communiqué de l'armée irakienne, 3 militaires et 2 policiers ont été tués dans la province de Babylone notamment, ainsi qu'un civil travaillant sur le site de l'aéroport en construction à Kerbala.
Une équipe de l'Agence européenne de contrôle des frontières a débuté des opérations de surveillance pour au moins 2 mois à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie dans le cadre de l'aide réclamée par Athènes pour freiner le flux migratoire venant de la Turquie. La Grèce a demandé la semaine dernière l'aide auprès de l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée par Nanik Talani.
Le déficit de la Zambie en matière d'approvisionnement en électricité a augmenté de près de 20% depuis septembre, malgré des hausses de prix massives et le soutien du gouvernement à des projets d'énergie verte pour lutter contre les délestages provoqués par la sécheresse, a annoncé ZESCO, la société publique d'électricité. Le déficit est passé à 810 MW contre 690 MW en septembre. L'accord visant à importer 300 MW d'énergie de l'Afrique du Sud est expiré et ne sera pas renouvelé. Pour combler le manque, ZESCO s'appuiera désormais sur les importations d'électricité à court terme du pôle énergétique de l'Afrique australe. La Libye, qui tablait sur plus de 6% de croissance, devra revoir ce chiffre à la baisse, a souligné son ministre de l'économie. Le gouvernement a dû se résoudre à diminuer son budget de quasiment un tiers à 24,5 milliards d'euros au lieu de 35 milliards d'euros. Cette baisse touche de plein fouet les services publics, l'investissement, les nouvelles écoles et les nouveaux hôpitaux. Les investissements destinés à moderniser les infrastructures pétrolières seront repoussés. Terminons par les prix du pétrole qui affichaient une hausse de plus de 4% ce vendredi, ce qui ne devrait pas suffire à effacer les pertes de la semaine, les pires qui n'aient jamais été enregistrées depuis une décennie à cause de la pandémie de coronavirus et d'une guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, deux alliés majeurs au sein de l'OPEP, ont en effet accentué cette semaine la bataille qu'ils livrent à la Russie en annonçant qu'ils pourraient inonder les marchés mondiaux d'or noir.
À présent, la passe des sports avec Yacouba Ouattraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La CAF reporte les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021.
C'est en rapport bien sûr avec la pandémie du Covid-19. Les matchs devaient se jouer à la fin de ce mois. L'instance africaine dit qu'elle pourrait revoir son calendrier en fonction de l'évolution du coronavirus. La CAF a par ailleurs désigné le stade qui abritera la finale de la Ligue des Champions. Ce sera le stade Japoma de Douala au Cameroun. Cette enceinte était en concurrence avec le stade olympique de Rades et le complexe sportif Mohamed V à Casablanca. Des analystes estiment que la CAF s'est dirigée vers le Cameroun comme pays neutre pour abriter la finale. Le choix de Rades ne serait pas envisageable en raison du scandale de la VAR qui a eu lieu la saison passée lors du match Espérance de Tunis-Wydad Casablanca. Ce serait aussi un moyen pour l'instance de tester les infrastructures du Cameroun, pays hôte du CHAN 2020, prévu dans un mois, et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévu dans moins d'un an. Pour rappel, le complexe Moulay Abdallah de Rabat, seul candidat, a été sélectionné pour accueillir la finale de la Coupe CAF.
Justement, pour le CHAN d'avril prochain, il faudra montrer patte blanche pour entrer au Cameroun.
Ainsi en ont décidé les autorités camerounaises qui exigeront un test négatif au coronavirus pour tous ceux qui viendront pour la compétition. Hier, la CAF a dit respecter les mesures de restriction prises par certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. S'agissant du CHAN 2020, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril prochain.
Le début des éliminatoires sud-américains au Mondial 2022 reporté.
Oui, la FIFA a annoncé que les matchs des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Amérique du Sud sont reportés à une date qui reste à redéfinir. La raison, la propagation de la pandémie du coronavirus. Ces éliminatoires devaient commencer avec une première journée prévue du 26 au 28 mars avec à l'affiche Argentine-Équateur ou encore Brésil-Bolivie. Les 18 journées de la poule unique doivent normalement s'étaler jusqu'en novembre 2021. La Confédération n'a pas évoqué le sort de la Copa América, qui doit opposer 5 de ses membres, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie et le Paraguay, et l'Australie comme invité du 12 juin au 12 juillet en Argentine et en Colombie.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Une semaine, jour pour jour, après l'annonce d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat, son parti, le RHDP, a désigné Amadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre, comme candidat au scrutin d'octobre 2020. Aïcha Diarra.
Une candidature soutenue par les principaux cadres du parti, comme on le pressentait depuis des mois, c'est donc le premier ministre qui sera le candidat du parti au pouvoir lors de la présidentielle du 31 octobre, un camarade de lutte de longue date du président Alassane Ouattara.
Je suis fier de dire que Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats avec moi. Oui, même dans les moments les plus difficiles. Comme Ariel Diabaté, il a fait la prison. Il a connu l'exil, mais sa loyauté n'a jamais failli.
Quant à Amadou Gon Coulibaly, il rassure ceux qui lui ont accordé une telle confiance.
Ça fait 30 ans que j'apprends à vos côtés et vous m'avez donné cette occasion de servir le pays en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et de Premier ministre. À ces deux postes, j'ai pu voir ce que c'est que la gestion de l'État.
Des avis de partisans partagés sur le choix de Coulibaly. Amadou Bamba est membre du bureau politique RHDP de la région du Béké.
Nous sommes des militants disciplinés. Le Congrès a choisi. C'est ensemble qu'il a fait l'unanimité. Il a donc été choisi. Et donc nous, quant à nous, devons nous mettre en ordre de bataille pour assurer donc la victoire de notre parti, la victoire donc de notre candidat.
Pour d'autres, le choix leur a été imposé. Notre interlocuteur a voulu garder l'anonymat.
Mais on ne peut pas quand même nous imposer quelqu'un. Amadou Bon et Alassane Ouattara, c'est des personnes qui ont travaillé ensemble depuis très longtemps, même avant même que le président Alassane Ouattara ne soit là. On savait directement qui son sujet c'était Bon Coulibaly, même s'il ne nous plaisait pas. Moi, je pense que le choix est négatif. On devrait quand même nous aviser avant de passer à un tel acte.
La désignation d'Amadou Gon a eu lieu à l'issue d'un conseil politique du RHDP et a été officialisée lors d'une cérémonie à l'hôtel Ivoire à Abidjan. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Et pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver-Conan.
M. Gon a été, on va dire, le candidat en griffe, naturellement désigné pour ce job. Ce n'est vraiment pas une surprise.
Il y a eu la réaction d'Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, à qui certains prêtaient des intentions de candidature. Finalement, comment tout cela s'est passé?
Non, c'est la méthode Ouattara, c'est quelqu'un qui est méthodique et qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Tout ce beau monde qui était potentiellement candidat a été contraint d'une façon ou d'une autre de faire allégeance. Bien sûr, il y a confusément une voix comme celle de Mabri qui n'est pas encore totalement ralliée, mais je pense qu'il va finir par se rallier.
Vous l'avez dit, Mabri, le ministre de l'Enseignement supérieur, ne s'est pas jusqu'à présent en tout cas totalement rallié. Est-ce qu'il faut craindre des frictions au sein du RHDP?
Les frictions, c'est sûr qu'il y en a dans la salle, on le sentait. Mabri l'a exprimé, il a dit attention, ne prenons pas de décision hâtive pour l'heure. Cela ne va pas se passer aussi facilement, mais je pense que Alassane Ouattara a les moyens d'amener tout le monde à faire allégeance à Gon. Une chose certaine, ceux qui ne seront pas d'accord, ben, ils seront obligés de faire comme James Soro, claquer d'abord.
Marcel Tanon, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas dans la salle pour cette réunion du bureau politique du RHDP. Est-ce qu'on en sait plus? Pourquoi?
Non, on n'en sait pas plus. C'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup et je suis convaincu que le RHDP s'accommode bien de cette méthode de sa part. Une chose certaine, on savait plus ou moins qu'il n'était pas d'accord avec le choix de Gon.
M. Ouattara l'a déclaré la semaine dernière, il allait passer le flambeau à une nouvelle génération. Est-ce qu'il faut considérer M. Amadou Coulibaly Gon, le Premier ministre, comme faisant partie de cette nouvelle génération-là? Il a 61 ans quand même.
Absolument pas. La nouvelle génération, pour moi, c'est davantage la méthode, la gouvernance que l'âge. Et en matière de gouvernance, on a vu la gouvernance Ouattara marquée par un mépris de l'orthodoxie focalisé sur les grands travaux, donc si vous voulez, l'apparat macroéconomique. plutôt que les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques, les valeurs microéconomiques, il va hériter donc de cette gouvernance de l'ancienne génération. Amadou Gon Coulibaly ne m'a pas convaincu en termes de nouveaux systèmes, on va dire. Il incarne donc la continuité.
Justement, au regard de tout ce que vous dites, ne pensez-vous pas qu'Amadou Gon Coulibaly puisse remporter cette élection-là, d'octobre prochain?
On ne peut pas le dire comme ça. D'abord, on ne sait même pas qui sont ceux qui seront ses challengers. On sait que Guillaume Soro, il a déclaré sa candidature, mais est-ce qu'il pourra retourner en Côte d'Ivoire pour mener campagne? On ne connaît pas les candidats. Qui sont ceux qui seront, celui qui sera le candidat du PDC d'Henri Konabédé, par exemple? On ne connaît pas les candidats du FPI de Laurent Gbagbo. Pour le moment, on ne peut pas prédire que Gon Coulibaly va perdre ou il ne perdra pas. Une chose est certaine, c'est que dans l'opinion publique, il ne bénéficie pas forcément d'une opinion favorable.
C'était l'analyste politique ivoirien André Silvocono.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Italie a enregistré hier son millième mort et entre 5 et 10 000 personnes sont probablement infectées au Royaume-Uni où seulement 590 cas sont recensés selon le gouvernement et le nombre de cas a explosé en Espagne. Arzuma Compaoré a joint le père jésuite Jean-Pierre Bakojo, le coordinateur des programmes africains au sein de Radio Vatican.
On a peur maintenant puisque au début ça peut être facile. Les gens c'est quand on est à la maison, puisqu'ils ont peur de la maladie. Mais pour combien de temps? Puisque ça crée une sorte de psychose. Et les gens disent même qu'il y a des gens qui vont aller en dépression, évidemment, puisqu'on se sent vraiment en prison. On ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Et les gens qui étaient habitués à aller en liberté, de sortir, d'aller manger dehors, s'ils sont comme ça, ils sont confinés à la maison chaque jour. Hier, jeudi, l'Italie a reçu de l'aide du gouvernement chinois pour, par exemple, avoir suffisamment de masques, puisqu'il n'y en a plus. Et peut-être avec l'aide de la Chine qui a l'expérience, ça va un peu diminuer. Mais pour le moment, la maladie continue plutôt à se répandre.
Alors, comment est-ce que l'Église réagit face à cette situation?
L'Église a pris au sérieux aussi cette maladie. Tout en respectant les normes édictées par le gouvernement, l'Église aussi essaye de changer la façon de faire. Par exemple, de supprimer même des messes, ou s'il y a quelques messes, il faut se tenir à distance au moins un mètre par rapport à l'autre et d'éviter, par exemple, l'échange de salutations ou pendant la messe et la façon de communier et ainsi de suite. On a interdit, par exemple, de célébrer de mariage ou de baptême jusqu'au 3 avril et je crois que ça va continuer. Déjà hier, on a dépassé le nombre de 1000 morts. Alors, l'Église ne peut pas rester quand même indifférente devant cette situation qui avance comme ça. Même le prochain voyage du pape qui comptait faire vers l'Asie, je crois que cette année, ça ne se fera pas puisqu'il faut préparer un voyage, il faut y aller, il soit comme ça. Le problème est que si quelqu'un quitte l'Italie, arrive quelque part, maintenant comme on sait, il est en quarantaine pendant 14 jours, mais ça bloque tout.
Alors, qu'en est-il de la prise en charge des patients en elle-même? Comment cela se passe?
Le problème qui se pose sérieusement, c'est quoi? Les hôpitaux sont saturés. Je prends l'exemple du Vatican qui a demandé, par exemple, aux gens qui sont malades de ne pas y aller dans les centres de santé du Vatican, mais d'appeler pour qu'on puisse envoyer un médecin. Mais combien de médecins on peut avoir pour envoyer chez tout le monde? Et il en est de même pour l'Italie. Les hôpitaux sont saturés. On a fait appel à plus de 20 000 médecins qui étaient déjà en pension pour venir donner un coup de main. C'est ça le problème qui se pose. Et vous vous rendez compte que les hôpitaux n'ont pas suffisamment de matériel, par exemple, quand les appareils pour aider ces gens à respirer, il n'y en a pas suffisamment. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'on faisait? S'il y a un jeune qui arrive, qui a 35 ans, avec une personne âgée qui est dans les 80 ans, on sacrifie la personne des 80 ans. C'est malheureux, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça le problème. Le gouvernement italien venait de débloquer, si je peux le dire comme ça, 25 milliards pour chercher à acquérir encore plus de matériel pour affronter la maladie. Puisque je crois qu'on va traverser des moments difficiles les jours qui viennent.
C'était le père jésuite Jean-Pierre Bajoko au Vatican. L'épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde avec plus de 140 000 cas et plus de 5 000 décès. Et depuis plusieurs semaines, les remèdes miracles, les théories du complot et de la désinformation autour du Covid-19 se répandent sur les réseaux sociaux. Les autorités marocaines ont lancé un appel à la vigilance face à la multiplication des fake news, ces fausses nouvelles concernant l'épidémie. Et en Iran, 27 personnes sont mortes après avoir bu de l'alcool frais latté, croyant que cela allait les immuniser contre le coronavirus. Michel Joseph revient sur quelques-unes des rumeurs les plus répandues.
Il faut faire attention, car les rumeurs ou les fausses informations peuvent susciter des mouvements de panique et encombrer inutilement les centres de santé. Parfois, au contraire, des personnes présentant des symptômes préfèrent ne pas se signaler par peur de mesures de rétorsion imaginaire, ce qui peut contribuer à la propagation de l'épidémie. Voici quelques-unes des idées fausses et rumeurs qui circulent sur le nouveau coronavirus.
Le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques.
Le Covid-19 est un virus respiratoire qui se propage par contact avec une personne infectée. Pour vous protéger, lavez-vous fréquemment les mains et évitez tout contact étroit avec toute personne qui tousse ou qui a de la fièvre.
Les Africains sont plus résistants face au virus.
Selon le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, toute personne qui entre en contact étroit avec une personne infectée par le coronavirus risque de le contracter.
L'ail, l'huile de sésame ou l'urine des enfants désinfectent et protègent contre le virus.
Si l'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, il n'y a aucune preuve qu'en manger protège d'une infection.
La pulvérisation d'alcool, d'eau de Javel ou de chlore sur tout le corps tue le coronavirus.
Si vous êtes déjà positif au virus, la pulvérisation de ces substances ne changera rien. Elle peut être même nocive pour les muqueuses comme les yeux et la bouche. Utilisez l'alcool et le chlore uniquement pour désinfecter les surfaces.
Les animaux domestiques propagent le nouveau coronavirus.
À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie comme les chiens et les chats peuvent être infectés et donc transmettre le virus. Néanmoins, lavez-vous les mains après un contact avec un animal. Cela vous protège contre différentes bactéries de type Salmonella ou E. coli.
Recevoir un colis ou une lettre de Chine peut transmettre le nouveau coronavirus.
D'après des analystes, les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets tels que des lettres ou des colis.
Il existe un médicament spécifique pour prévenir ou traiter l'infection du nouveau coronavirus.
Aucun médicament n'est disponible à ce jour pour prévenir ou traiter le nouveau coronavirus. Toutefois, les personnes infectées par le virus peuvent recevoir des soins pour soulager et traiter les symptômes. Certains traitements spécifiques sont à l'étude et seront testés dans le cas d'essais cliniques. L'OMS tente d'accélérer les efforts de recherche et de développement avec plusieurs partenaires.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Cheikh Thierry, présentée par Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Et tout de suite,